France Culture. Les midis de culture. Marie Laborie.
Trois femmes, trois générations, en même temps, sur la même scène, c'est le défi de la pièce « Anatomie d'un suicide » de la Britannique Alice Birch. Défi relevé par le metteur en scène Christophe Roque. Il sera mon invité à partir de 13h. Mais on commence par notre plateau critique du jour, avec au programme les films de deux réalisateurs qui, chacun à leur façon, observent de près la société de leur pays. On parle donc de « Deux sœurs » du Britannique Mike Lee et de « Jeunesse, les tourments » du Chinois Wang Bing. Et pour débattre autour de la table aujourd'hui, Charlotte Garçon, rédactrice en chef adjointe au Cahier du cinéma. Bonjour.
Bonjour.
Antoine Guillot, producteur de l'émission Plan Large sur France Culture.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue à tous les deux. 30 ans après Secret et mensonge, Mike Lee retrouve la comédienne Marianne Jean-Baptiste dans Deux sœurs, qui sort aujourd'hui sur les écrans. Il lui a donc confié le rôle de Pansy, une femme en colère. Contre tout, contre tous. Elle fait régner la terreur dans sa maison des quartiers middle class de Londres. Son mari, son fils, rasent littéralement les murs. Seule sa sœur, Chantelle, coiffeuse, continue de lui parler et d'essayer de la comprendre. La fête des mères qui approche exacerbe les tensions dans cette famille afro-descendante. On commence par un avis rapide de l'un et de l'autre, Charlotte Garçon.
Ah oui, moi je trouve que Mike Lee fait bifurquer le réalisme social d'une manière tout à fait inattendue et j'ai adoré détester cette héroïne acerbissime.
Antoine Guillot.
Alors moi qui, au contraire de Charlotte Garçon, aime beaucoup les personnages impossibles, en colère, antipathiques, je ne sais pas si c'est parce que je m'y reconnais, mais en tout cas, je suis particulièrement bien servi.
Alors on va écouter quelques secondes de cette bande-annonce qui est en VO, évidemment, mais... À mon avis, vous allez assez vite saisir la tension qui peut se dégager de ce film.
Look at you! Fix your face! You're dealing with the public, handling people's food!
Stop, please!
Oh, you can pipe down and all standing there like an ostrich. People can't stand them. Cheerful grinning. Are you gonna purchase this sofa?
Are you gonna buy it?
No, I'm not. I don't wanna take your DNA home with me, thank you very much.
I'm not seeing a bit.
Where do you think you're going?
For a walk.
People are going to accuse you of loitering with intent.
Your sister called me.
Who?
Chantel.
I know who my sister is, thank you very much. What's she calling you for? When are you going to settle down?
Well, you have somebody for me.
Yes, Jesus.
Voilà, deux sœurs de Mike Lee avec cette petite musique douce comme ça qui vient contraster avec l'acrimonie du personnage principal que donc, Charles Garçon, vous avez adoré détester.
Oui, ce sont des viols d'amour. J'ai un peu fait enquêter. C'est pas seulement des altos, mais c'est un alto particulier avec des cordes sympathiques qui résonnent sans qu'on les touche. Et c'est celle qui résonne sans qu'on la touche. C'est aussi Pansy parce que, en fait, on pense au début que le film va nous expliquer sa colère, va analyser, va livrer un portrait psychologique. Alors, vous allez me dire que je me projette, mais on se dit peut-être c'est la ménopause. Enfin, voilà, on passe par toutes les mauvaises hypothèses de spectateurs. Et en fait, ce que j'ai aimé dans ce film, c'est son côté univoque. Et à la limite, bon, on reparlera peut-être de sa deuxième partie, puisque effectivement, on comprend des choses à partir d'une scène dans un cimetière. Mais vraiment, il y a un potentiel comique qu'on a entendu là. Je pense aussi que si on aime la langue anglaise, on l'entend ça, c'est-à-dire le potentiel comique de quelqu'un qui est d'une misanthropie totale, qui ne rend service à personne. Il y a quelqu'un dans la queue au supermarché, elle lui dit « fix your face, t'as une sale gueule », en gros. Donc le délit de sale gueule s'applique à tout le monde, des gens qu'elle connaît comme ceux qu'elle connaît pas, les gens supposés savoir comme les médecins en prennent aussi pour leur grade, voilà. Donc on voit ce qu'il y a de comique là-dedans, mais en réalité, ce que j'ai aimé, c'est que le film, très vite quand même, on sent quelque chose de très de tragique. La façon dont il arrive à enrouler cette colère dans une mélancolie telle, quand on s'aperçoit qu'en fait, le film, ce ne sera pas un film, j'allais dire, initiatique, en tout cas de métamorphose et de transformation. Et ça, je trouve que c'est très osé en réalité. Parce que Mike Lee, on a beau dire, je sais que ce n'est pas Ken Loach, mais je pense qu'on a des attentes de spectateurs du côté d'un réalisme social beaucoup plus organisé, j'allais dire beaucoup plus plan-plan. C'est-à-dire, en fait, avec des cadres beaucoup plus larges, alors que là, on est principalement dans l'appartement de cette femme et de cet homme, Kurt Lee, et de leur fils. Dès que le fils sort dans la rue, on l'a entendu, elle dit, mais en fait, tu vas te faire arrêter pour vagabondage, donc on peut même pas aller se balader. Le tout petit jardin, bah, y a peut-être un renard, donc faut pas trop sortir. Faut pas ramener de la crotte d'écureuil quand on va dans le jardin. Donc, en fait, il construit un enfermement et on se fait prendre à ça, à ce piège-là. Et j'ai retrouvé les sensations que j'avais quand j'avais adoré ce film Naked, avec cet acteur David, dont j'ai oublié.
Ulysse.
Oui, qui était un SDF. Et c'est-à-dire, on va tout le temps d'un côté, c'est un bloc de négativité. Et ça, c'est très rare au cinéma. J'imagine que ça demande aussi un financement indépendant, du coup.
Ouais. Antoine Guillaume, c'est vrai qu'elle est... On peut pas l'aimer, en fait, ce personnage-là. Et ça, ça nous demande un vrai travail.
Et pourquoi on pourrait pas l'aimer? On l'aime déjà comme personnage de cinéma. C'est-à-dire que c'est un personnage de cinéma extraordinaire qui, effectivement, ressort à toute cette tradition qu'il y a chez Mike Lee, du personnage impossible qui vitupère, qui prend beaucoup de place, qui est dans l'excès, mais qui est presque un personnage, une définition du personnage burlesque, en fait. Et c'est vrai qu'on rit beaucoup.
Il parle de tragicomédie, lui.
Au départ, on rit beaucoup parce que c'est un personnage sans filtre qui finalement dit un peu à tout le monde ce que parfois on pense secrètement, sauf que elle le dit.
Les quatre vérités d'ailleurs, voilà. C'est hard truth.
Exactement, et elle le dit avec une invention langagière en plus qui est extraordinaire, c'est un effet spécial du langage en permanence que cette femme, sauf que l'empathie qui effectivement n'est pas facile, c'est-à-dire qu'on n'est pas programmé, en tout cas au cinéma, pour aimer des personnages qui sont comme ça, elle nous est quand même montrée comme un personnage en souffrance dès le départ. C'est quelqu'un, la première fois qu'on la voit, elle se réveille en hurlant. C'est-à-dire, on ne sait pas si elle se réveille d'un cauchemar qu'elle a fait, ou si le simple fait de retourner dans la vie réelle l'a fait hurler parce que c'est impossible à vivre. Et un personnage qui n'arrive pas à trouver sa place dans la société autrement qu'en étant en réaction pour peut-être se protéger, ou parce que effectivement le monde est pénible, les gens sont pénibles, et parfois on a envie de le dire, pour moi ça déclenche une empathie directe. Et je trouve beaucoup plus inquiétante d'une certaine façon le personnage en miroir qui est sa sœur, qui est jouée par Michelle Austin, Chantelle, avec qui elle a une vieille histoire de jouer des sœurs, puisque vous parliez de Secrets et mensonges il y a 30 ans, mais 10 ans encore avant, elles avaient déjà joué ensemble dans une mise en scène de Mike Lee, des sœurs sur la scène, puisque c'est quelqu'un qui vient, et on en reparlera sur sa méthode de travail, vraiment du plateau, de l'écriture de plateau et de la conception des personnages avec ses interprètes. Et alors ce personnage qui est enjoué en permanence, qui est d'une bonhomie totale, et pire encore, ses filles, dont on a l'impression qu'elles surjouent la joie, la résilience permanente, me renvoie à un autre film de Mike Lee qui s'appelait Happy Go Lucky, en français ça avait été traduit par Be Happy, et où on avait un personnage qui était excessivement joyeux.
Oui, une jeune femme
Qui s'était donné comme programme d'être toujours heureuse, d'être toujours joyeuse. Et en fait, ce sont ces personnages exagérés dans leur réaction au monde qui sont très très flippants. Or, on constate, et c'est là qu'arrive cette seconde partie, qu'elle... Étant sœurs, elles ont une même histoire familiale, sauf qu'évidemment, elles n'ont pas vécu de la même manière. Et l'une, en réponse de l'autre, c'est vraiment le positif et le négatif, et je ne dirais pas qui est le positif et qui est le négatif dans cette histoire, se rencontrent et il y a une sorte d'annulation à un moment de l'excès de chacune qui se synthétise dans une scène où à la fois on pleure et à la fois on rit, et qui est une scène de jeu absolument, non seulement extraordinaire, mais totalement bouleversante.
Charlotte Garçon ?
Oui, alors on parlait de la méthode de travail de Mike Lee. Peut-être on la résumera un peu. Enfin, c'est-à-dire qu'elle est faussement théâtrale, on peut dire. C'est-à-dire que oui, elle vient du théâtre dans le sens où elle est basée sur des improvisations. Alors, je l'ai rencontrée là il y a peu de temps. Je lui ai posé des questions.
Oui, il y a une interview dans les cahiers du cinéma. C'est
oui,
ça.
Et ce que j'avais oublié, je me souvenais qu'il fréquentait les acteurs de manière à les nourrir sur le personnage. Mais en fait, c'est un peu plus précis que ça. C'est-à-dire qu'il est moins précis que ça. C'est-à-dire qu'il leur leur demande une liste de gens qu'ils connaissent, qu'ils ont rencontrés dans la vraie vie, et à partir duquel il y a quelque chose d'humain qui est intéressant. Enfin, c'est aussi vague que ça. Ensuite, lui, il les liste et il fait la priorité de des petites histoires sur ces gens qui l'intéressent et qui vont nourrir le personnage. Donc, en fait, ça vient pas non plus vraiment de l'acteur. Enfin, ça vient de l'acteur, mais ça le dépasse déjà d'une certaine façon. Et puis ensuite, il y a des longs travail de répétition, mais dans les décors, et c'est très important parce que moi, c'est rare un film dont les décors sont à la fois, contemporains. Enfin, ils sont pas du tout spectaculaires. C'est pas Sarah Bernhardt, quoi. Je veux dire, il va pas avoir un Oscar du meilleur. Bon, et en même temps, qui reste de manière précise et qui crée une situation à la fois d'asepsie et d'enfermement. Il suffit qu'un bouquet de fleurs, voilà, il y a tout. On peut suivre les mésaventures d'un bouquet de fleurs. Donc, le fait qu'ils répètent avec les acteurs et qu'ils improvisent avec les acteurs dans les lieux, c'est une chose importante. Puis ensuite, ils fixent ça et ensuite, c'est pas du tout improvisé. C'est-à-dire que quand c'est filmé, ça n'est pas du tout improvisé. Donc, il y a toute cette fréquentation à la fois du personnage, cette invention du personnage. Et ce qui m'a intéressée dans le petit entretien que j'ai fait, c'est qu'en fait, il dit, mais je savais pas où allait le film. C'est-à-dire que je lui ai dit, mais cette fin qu'on ne dévoile pas, mais qui est justement suspendue, c'est-à-dire qu'on peut pas s'empêcher en tant que spectateur, même si on est un spectateur, on peut dire un peu aguerri ou non dupe, comme on peut se le croire en étant critique, ce qui est évidemment faux, mais on se dit il va y avoir une résolution, il va y avoir une catharsis, et en fait il dit mais moi je savais pas s'il y allait avoir une résolution ou pas. Et donc là quand même c'est dans les mains des acteurs et c'est très osé en fait de faire ça. Il faut une énorme confiance des deux côtés.
Antonio.
Précisément parce que Mike Lee ne fait pas de la fiction consolatrice, disant qu'il suffirait d'exhumer un traumatisme, il suffirait de se parler, il suffirait de se câliner pour que tout aille mieux. Des gens qui ont une souffrance si profonde, ça se règle pas en deux coups. Et puis ça aussi c'est un procédé mais très efficace de Mike Lee. C'était le cas déjà, il me semble, dans Another Year. C'est que on prend les gens à un moment de leur vie, mais on va pas prétendre en une heure et demie film, vous synthétisez toute leur vie. Donc le film commence comme il se termine, par quasiment le même plan sur ces cottages de la grande banlieue londonienne. Les choses ont un peu changé, si vous regardez, il y a un arbre qui a poussé, qui est peut-être un signe d'espoir entre-temps, sauf que leur vie continue, et puis leur vie a commencé avant, et on n'est pas là pour dire, tout va se résoudre. Moi, je voulais aussi revenir sur ce fauné, il me semble, de cinéma social pour Mike Lee, parce que comme il est apparu en même temps que d'autres, et notamment Ken Loach, on a voulu les ranger dans le même sac, c'était assez commode. On disait bon, c'est pas vraiment du cinéma, le cinéma anglais, mais au moins ça montre la société et ça se préoccupe de questions sociales. Imaginez le même film fait par Ken Loach. On n'a pas encore dit que ça se passe dans un milieu afro-caribéen à Londres, sans que jamais chez Mike Lee ce soit un sujet, ce qui est déjà un acte politique très fort, c'est-à-dire prétendre à l'universalité avec des personnes qui sont assignées socialement, qui sont racisées, tout ça. Donc, n'importe quel autre cinéaste aurait dit c'est parce que la société, c'est parce que le racisme, etc. Alors ça surgit, effectivement, mais de manière très subtile, par du hors-champ, par une scène d'humiliation au travail, par exemple, avec une des filles de la sœur Chantelle, par le fait qu'effectivement, un garçon noir, qui en plus va pas très bien dans sa peau, qui marche le regard baissé dans la rue, risque de se faire emmerder et arrêter pour vagabondage, sans doute aussi parce qu'il est noir, c'est jamais spécifié, c'est jamais le sujet du film. On touche avec Mike Lee, quels que soient les gens qui l'emploient, y compris des physiques très dérangeants comme était David Thewlis dans Naked, à quelque chose qui touche à l'universel et dans lesquels on peut tous et toutes se reconnaître.
Oui, et ce décadrage, il est important parce que, comme dit Antoine, ça ne laisse pas hors champ cette réalité.
C'était le risque aussi d'avoir un regard d'homme blanc de 70 ans sur ces questions-là.
Oui, ou de faire comme si ça n'avait absolument aucune incidence, voilà. Et donc cette idée de décaler, moi je la ressens aussi dans le fait que allant voir le film avec quand même ce titre français, malgré tout, qui nous fait chercher où est la deuxième sœur, qui est la première, enfin qui est sœur dans le film, etc. Quand j'ai vu la coiffeuse dans la première scène où elle apparaît et qui coiffe une cliente, qui commence à raconter sa vie, et c'est très très intéressant ce que dit la cliente, je me suis dit, enfin qui est la protagoniste au fond du film. Et du coup, comme on est aux aguets de ça, on s'intéresse beaucoup plus aux personnages secondaires. Et même s'ils ont un temps d'écran limité, ils existent tout de suite très très vite. Et ils sont des recueils, des petites cabanes d'autres petites histoires romanesques et on s'y engouffre. Il y a aussi l'employé du père qui est un petit plombier, un artisan vraiment de petite taille, mais qui a quand même un aide qu'on voit au tout début du film. Et on pense que c'est le personnage principal d'ailleurs au début. Et qui se met dans le travail, au cours même du travail, à parler de Haydn, de Big Ben, de la mélodie de Big Ben, etc. Et donc voilà, il sait aussi faire éclore ça sans que ce soit anecdotique, sans que ce soit une petite gratification qu'on une petite croquette comme ça qu'on lance au spectateur, mais en réalité, ça, c'est le réalisme social aussi.
C'est le réalisme humain en tout cas, parce que en voyant toute cette troupe extraordinaire qu'il y a dans le film, et souvent quand on voit des films anglais, on se demande quand même, mais pourquoi est-ce que les acteurs anglais sont tellement meilleurs au monde, sans doute, mais en tout cas meilleurs que nombre d'acteurs français. Et je crois que ça se joue beaucoup au-delà de ce texte, cette invention langagière dont je parlais tout à l'heure, par une implication physique qui est sidérante. C'est-à-dire, il faut voir comment Marianne Jean-Baptiste en particulier, puisque ça se sent beaucoup sur elle, joue presque comme j'ai vu le film peu après avoir vu celui d'Albert Serra et j'avais le sentiment de voir ce taureau dans l'arène. C'est-à-dire qu'elle a le regard baissé comme ça, prête à foncer sur le premier chiffon rouge qui s'agite devant elle jusqu'à un effondrement du visage que filme très très bien Mike Lee. Il est célèbre pour ses gros plans sur les visages et ce qui se joue, mais on a l'impression que le moindre des muscles de son visage est mobilisé dans un jeu vraiment absolument génial. Enfin, oui. Les acteurs britanniques, encore bravo.
Et on pourrait presque dire que le réalisme social, en fait, c'est la science-fiction. Parce que ce que disait Antoine sur le début en cauchemar, ça me fait penser à Un jour sans fin. Mmh. C'est-à-dire qu'être dans cette vraie vie-là, c'est aussi toujours le même jour et le cauchemar absolu.
Deux sœurs de Mike Lee. Mike Lee qui sera votre invité, Antoine, dans Plan Large ce samedi à 14h. Et Charlotte, on répète que vous l'avez rencontré. L'interview est à lire dans les cahiers du cinéma de ce mois-ci.